Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Vous êtes peut-être équipé d'une machine parlante, d'une enceinte connectée, d'un smartphone doué de la parole qui vous écoute sans relâche, poliment, sans jamais se fatiguer de vos requêtes. Demain, il nous paraîtra naturel, indispensable qu'un robot émotionnel nous aide dans les tâches du quotidien ou qu'il nous tienne compagnie. Nous entretenons déjà avec nos smartphones un lien d'attachement comme s'il s'agissait d'un doudou numérique. Et comme les jeunes enfants, nous sommes souvent plongés dans un profond désarroi quand nous l'oublions ou quand nous le perdons. Nous le savons, ces machines parlantes, ces robots émotionnels ne sont dotés ni d'émotions, ni de sentiments, ni d'intentions, ni de libre arbitre. Ces machines nous imitent sans ressentir quoi que ce soit. Elles nous parlent sans comprendre un traître mot de ce qu'elles racontent et pourtant elles nous fascinent de plus en plus. Faut-il avoir peur de la révolution qui s'annonce au cours de cette décennie? Nos experts Laurence Devillers et Serge Tisseron vont nous aider à anticiper l'emprise insidieuse de ces machines parlantes et de ces robots émotionnels. Nous attendons toutes vos questions sur cette intelligence artificielle qui s'incarne dans la parole au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce, très en colère ce matin, et je vous assure qu'il s'agit d'une saine colère. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Voilà. Ici aussi. Très bien. Ah, ça devrait aller. Ding ding, que penses-tu de mon installation?
Votre question est irrecevable. Je ne dispose pas d'un nombre suffisant d'éléments me permettant de juger ce que vous faites.
Oh, bon, tu as sans doute raison, mais tu pourrais au moins me féliciter, rien que pour m'encourager, hein.
Je ne suis pas programmée pour féliciter les gens du village à tort et à travers.
Je vois que du côté amabilité, tu ne t'arranges pas. Oh, il va falloir que Paltok révise tes circuits.
Ding ding dans le village dans les nuages, l'ancêtre des voix Siri ou Alexa qui donne vie aux enceintes connectées. Bonjour Laurence Devillers.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, directrice de recherche au CNRS, l'une des meilleures spécialistes en France de l'intelligence artificielle, et vous publiez aux éditions de l'Observatoire les robots émotionnels. Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir également. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, et vous publiez au Lien qui libère l'emprise insidieuse des machines parlantes. Serge Tisseron, quand vous parlez de machines parlantes, vous évoquez surtout les enceintes connectées, les robots conversationnels, les robots émotionnels?
Toutes les machines qui vont nous parler. Alors, les premières qu'on connaît sont les enceintes connectées. Bon, on sait bien que beaucoup d'utilisateurs sont assez déçus de leur performance, mais les robots conversationnels, vous avez raison, comme Siri, et puis très vite des compagnons digitaux, on va avoir une image sur l'écran, une image d'un visage, et puis bien sûr les fameux robots qui intégreront un grand nombre de capacités, dont la capacité de parler.
Laurence Devillers, que dire à ceux qui ne se sentent pas concernés par le sujet de l'intelligence artificielle qui s'incarne dans ces machines parlantes, ces robots émotionnels, ces robots empathiques?
Je dirais qu'à la fois, on cherche à découvrir un peu plus ce que nous sommes à travers la modélisation qu'on fait sur les machines. On peut imaginer des solutions très utiles pour accompagner dans des pathologies, dans certains cadres applicatifs, notamment pour la santé et pour le bien-être. Et qu'il y a aussi des risques à utiliser ces technologies parce qu'elles sont magiques. Une espèce de magie numérique de la machine qui va vous répondre. En fait, elle répond alors qu'elle comprend pas la question, juste par en imitant et à partir de modèles. Elle n'a pas d'intériorité, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Elle n'a pas d'intention propre à part celle que lui a donnée le programmeur. Et il y a cette confusion, cette anthropomorphisation des machines, c'est-à-dire qu'on va projeter sur elles des capacités humaines du moment que les chercheurs essayent de modéliser en fait les capacités des humains. Donc il y a là une tension réelle, une tension éthique, qu'il est important de souligner, et pour lequel le monde de la recherche, le monde des développeurs, des technologies, doit prendre conscience. Parce que les utilisateurs en face risquent de se faire manipuler et berner.
Qu'appelez-vous robots émotionnels? On dirait un oxymore. Robots et émotions sont deux mots qui ne vont pas ensemble, a priori.
Non, ils vont pas ensemble de la même façon que intelligence artificielle. intelligence, c'est humain, émotion, c'est humain, et artifice et machine, c'est effectivement artificiel. Et dans cela, il y a donc déjà une façon d'être déconcerté. Hein, quand on vous dit un robot émotionnel, quand on j'entends encore, je lis dans la recherche qu'on va chercher à faire des machines humainement proches, je me dis que là, il y a vraiment un enjeu fort dans la société hein, qui doit être discuté auprès de tout le monde. Est-ce qu'on veut aller aussi près de la frontière humaine ? Quelles sont les limites à se donner ? Est-il nécessaire toujours de vouloir abuser en fait sur le statut de cette machine qui n'a rien d'humain, même si elle imite ? Et un autre aspect extrêmement important, c'est qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit.
Alors vous parlez d'enjeux de société, vous Serge Tisseron, vous parlez de révolution anthropologique hein, majeure dans les 20 ou 10 prochaines années.
Oui, c'est la même chose, simplement la porte d'entrée change. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les machines parlent, nous n'avons plus du tout avec les machines la même relation. Aujourd'hui, nous utilisons des ordinateurs, nous utilisons des véhicules automobiles, des tas d'objets dans la maison, mais nous allons vers eux, nous les mettons en route, nous les utilisons pour une tâche. Il faut bien comprendre qu'une machine parlante, c'est pas seulement une machine vers laquelle on va, qu'on met en route et avec laquelle on parle. C'est une machine qu'on oublie très vite d'éteindre, qui s'adresse à nous, qui nous interpelle le matin, le soir, comment t'as passé ta journée. Et donc, du coup, la confusion entre ce que la machine peut réellement ressentir et penser est maximum. C'est-à-dire que nous savons bien que la machine n'est qu'une machine, mais quand même, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que peut-être elle serait capable de nous comprendre. Est-ce quelque chose qui a déjà été identifié dès les années 1960 sous le nom de dissonance cognitive, je sais bien, mais quand même.
Et vous parlez même d'une révolution qui touche notre humanité. Le cœur de notre humanité.
Oui, absolument. Alors, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse en tant que psychiatre, c'est de comprendre comment ces machines vont complètement modifier notre fonctionnement. Si vous voulez, comment le fait d'utiliser une technologie nous transforme à notre insu. Et il faut bien comprendre que déjà, notre intimité a été beaucoup changée par les machines que nous utilisons. On appelle ça l'économie de l'attention. On a très peu d'intimité, en réalité. Dès qu'on a un moment, on se précipite sur son smartphone. Donc, on n'est plus dans l'intimité. Et donc, avec ces machines parlantes, évidemment, la sollicitation va être encore plus importante. Et puis on va les prendre pour confidents, inévitablement, tellement de gens sont seuls. Regardez, pendant le Covid, 30% des gens seuls chez eux. Avoir une machine à laquelle on peut parler, avec laquelle on peut interagir, c'est quand même extrêmement séduisant. Donc ça va changer la relation à l'intimité, ça va changer le statut du confident, ça va changer même l'image que nous avons des émotions. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. Inévitablement, ces machines vont se développer. Il faut mettre en place des garde-fous. Effectivement, Laurence a raison de constamment le rappeler, je le rappelle aussi dans mon livre, mais il faut aussi parallèlement comprendre comment ça va nous transformer.
Alors tout cela peut nous effrayer, pourrait nous effrayer. Laurence de Villers, en exergue de votre livre, vous citez la loi d'Amara, du nom de Roy Amara, ancien président de l'Institut du Futur à Palo Alto, en Californie. Je le cite, nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme.
Oui, ce qui veut bien dire qu'en fait, on s'alarme hein, pour des propos sur le transhumanisme, pour des technologies qu'on nous montre et qui sont peut-être plus faciles à apprivoiser que celles-là. Et puis, on oublie en fait que, c'est ce que dit Serge, il faut travailler sur l'aspect continu. C'est-à-dire que les machines, à prime abord, on va dire, bon, on va maîtriser, c'est comme, j'entends encore des chercheurs dire, bon, c'est comme l'imprimerie ou c'est comme tout changement. Non, ce n'est pas cela. C'est bien plus que cela, la conversation, c'est bien plus l'intimité. On va avoir des anges gardiens, hein. C'est ce que Yann Lequin parle de d'anges gardiens, c'est-à-dire en fait un espèce d'assistant qui va certes peut-être travailler en cybersécurité pour éviter que vos données puissent aller n'importe où, mais qui sera aussi votre mémoire. Donc forcément, moi j'appelle ça la coévolution humain-machine, et je pense qu'en cela on est proche aussi avec Serge Tisseron, en étant dans la pluridisciplinarité, hein. Ça va modifier nos comportements. On cherche à faire des machines qui vont intégrer des théories d'anthropologie, de sociologie, de compréhension fine de notre comportement en interaction, pour mieux quoi ? mieux nous manipuler? Je pense que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais en fait, ils sont ignorants des causes qui les déterminent. Ça, c'est une phrase de Spinoza, que je cite aussi dans mon livre. Il est important qu'on ne s'arrête pas juste à la phrase « au petit confort qu'il y a », mais qu'on comprenne que ça va changer nos comportements de façon assez en profondeur. Mmh.
Ce qui est assez troublant, c'est que ces machines, qui ne sont dotées ni d'émotions, ni de sentiments, ni de désirs, qui n'éprouvent pas de plaisir, qui ne comprennent pas ce qu'elles disent, qui peuvent donc nous imiter sans ressentir quoi que ce soit, eh bien nous sommes capables de créer des liens très puissants avec ces machines. Comment ça s'explique, Serge Tisseron ?
L'être humain a toujours lié des liens extrêmement forts avec ces objets technologiques. Je veux dire, l'époque où certaines personnes passaient leur samedi à nettoyer leur voiture et le dimanche à la promener, il est pas si loin.
En lui donnant un nom.
Absolument. Donc l'être humain a toujours entretenu un lien d'attachement, un lien affectif fort à ces machines. Le problème, c'est que c'est un impensé de la culture occidentale. C'est quelque chose qui est accepté dans la culture orientale, qui est même cultivé. Voilà, il y a même parfois des cérémonies funéraires pour certains objets qui ont rempli leurs obligations durant leur vie entière, on pourrait dire. Mais en Occident, vous savez, il y a eu l'homme, voilà, et puis tout ce qui n'était pas l'homme, y compris les animaux, d'ailleurs pendant longtemps, c'était rien du tout. Et donc l'attachement aux objets, il était honteux, fallait pas le dire, voilà, en plus culture chrétienne, voilà, on s'attache pas à ce bas monde et tout. Et donc ça nous revient comme un boomerang en pleine figure. On s'aperçoit avec ces objets numériques de plus en plus sophistiqués, ces objets parlants, qu'on est capable d'établir des liens d'attachement avec eux, mais si on ne comprend pas que ces liens d'attachement ont toujours traversé la relation de l'homme à ces technologies, on a beaucoup de peine à comprendre que justement ces liens vont s'approfondir, ils vont se complexifier avec ces objets. On n'en est qu'au début de la relation affective, la relation d'attachement à des objets. Parce que ces objets, encore une fois, ils vont pouvoir nous interpeller et ils vont pouvoir créer à tout moment l'illusion d'un partenaire humain qui, pour beaucoup, fait défaut.
Alors, pour aller encore plus loin, on est capable à l'heure actuelle, en fait, de simuler le comportement de quelqu'un à travers une machine langagière. Donc, là, vous aurez peut-être votre papa qui est décédé, qui va pouvoir continuer, après sa mort, à vous parler. Et donc, on a vu plusieurs applications. Le dernière chose qui m'a fait réagir, et très en colère, c'est Microsoft qui sort en fait un brevet sur cette idée de création d'une entité qui serait... qui représenterait quelqu'un qui est décédé. Alors, derrière tout cela, il y a des sujets de tensions éthiques, il n'y a pas de loi qui interdit cela, et on va voir arriver, en fait, différents types d'applications qu'on n'a pas anticipées autour de l'affectif et de la présence de ces objets. Juste pour vous dire, au Japon, effectivement, il existe déjà un robot sur lequel on projette le visage du défunt, mais c'est assez encadré dans le sens où le deuil se passe pendant 49 jours et les proches peuvent interagir avec ce robot qui a la mémoire de la personne. Et en fait, à partir des traces internet, il y a un journaliste américain qui a fait ça pour son père. Avant sa mort, son père avait un cancer, il a enregistré des conversations avec lui. Il était capable de générer des modèles, ce qu'on fait dans mon laboratoire, de reconnaissance de la parole, mais aussi d'historique, c'est-à-dire les choses qu'aimait la personne, son histoire, ses habitudes, et de pouvoir générer un agent conversationnel capable de parler comme si c'était le défunt après sa mort. Alors, cela va changer beaucoup la façon dont nous allons interagir les uns avec les autres.
Alors ces robots empathiques, ces machines parlantes, pleines de sollicitude, sauront nous remonter le moral, pourront nous aider quand nous éprouverons des difficultés. Mais on peut s'interroger, pourquoi l'être humain cherche-t-il à créer des robots émotionnels? Quelle est la raison profonde, Serge Tisseron?
Alors, l'être humain est fasciné par ses propres capacités. Vous savez, aucune invention aussi folle soit-elle ne fera renoncer un chercheur à partir du moment où elle est à portée de la main. Donc, il y a d'abord une fascination pour la création, pour la construction de choses originales. Mais aussi, il y a le fait que il y a un grand public pour ce genre de choses. Bon, Laurence vient de l'évoquer, le fait que nous puissions rester en contact avec nos disparus, ça fascine beaucoup de gens. Donc, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a des enjeux économiques faramineux. Si les enjeux économiques n'étaient pas aussi importants, il est bien évident que la recherche et développement ne serait pas aussi intense. L'idée, c'est que chacun, dans quelques années, ait un robot conversationnel dans sa poche, de la même manière que nous avons aujourd'hui un smartphone dans notre poche. Vous voyez, en termes d'investissement, investissement, en termes de bénéfices, en termes de retour sur investissement, c'est absolument faramineux. Et puis du côté des humains, eh ben il y a la solitude. Il faut pas oublier quand même que nous sommes dans une société, et puis le confinement l'a confirmé, où beaucoup de gens se sentent de plus en plus seuls. On sait bien, on a inventé les psychothérapeutes à un moment, je sais bien si vous le savoir, parce que c'était des gens qu'on payait pour que j'en parle un peu au passé, il y en a encore, mais vous savez, c'est moins bien vu. Des gens qu'on paye pour qu'ils nous interrompent pas quand on leur raconte notre histoire. Quand on leur dit, avec ma femme, ça va pas très fort, ils nous répondent pas, ben, moi aussi, tu sais. Voilà. Des gens qu'on paye pour qu'ils ferment leur gueule pendant qu'on leur parle. Vous voyez, le robot conversationnel, ça va être une machine qui va remplir aussi cette fonction-là pour beaucoup, qui aura un statut de confident, alors, effectivement, de coach, voire de directeur de conscience, hein, comme l'évoquait Laurence tout à l'heure. Donc, beaucoup d'utilisations possibles. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début pour comprendre cet éventail des utilisations. Beaucoup de recherches sont nécessaires là-dessus, mais ce dont on est certain, c'est que ça va flamber. Parce qu'il y a à la fois la rencontre d'intérêts économiques majeurs et la rencontre d'attentes très importantes de la part du public à être compris, écouté, à avoir au moins l'illusion de l'être. Parce qu'en réalité, on ne sait jamais si on l'est, même par un humain.
Laurence de Villers.
Oui, en fait, il y a aussi un grand sujet qui est celui de l'immortalité derrière tout ça. Donc c'est un fantasme des transhumanistes, mais c'est aussi un fantasme peut-être de chacun. Hein. C'est pour ça que cette éternité numérique qu'on peut recopier sur un objet parlant, il faut en comprendre ses limites. Il faut pas jouer avec. Il y a cette idée de créer des doubles numériques de ce que nous sommes, avec même des hologrammes qui vont vous représenter. Et à travers tout ça, il y a un champ d'application faramineux. Donc, moi, ce que je retiens surtout, c'est que les chercheurs qui sont aux manettes de ces recherches, que ça soit dans l'industrie ou dans la recherche publique, devraient être conscients du fort potentiel de dérive de ces différents sujets. Ce sont des sujets très hot, comment dirais-je, chaud, hein, la détection des émotions. Moi, j'ai travaillé sur ces sujets depuis 2000. J'ai eu beaucoup de thésards qui ont continué ensuite à travailler sur ces sujets. J'aimerais que tous soient conscients des problèmes éthiques qui sont derrière la mise en œuvre de ces modèles. Un, ils ne sont pas évalués correctement. Il n'y a pas de benchmark pour voir les limites de ces sujets. Donc,
benchmark.
On vous dit. Benchmark, ça veut dire un ensemble de stimuli pour tester les performances de la machine. Et je dirais que pour beaucoup, c'est du bluff. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans cette histoire. Nous sommes là en train de parler d'objets, chatbots, agents conversationnels, c'est la même chose ce terme, qui vont nous répondre de façon humaine, mais on en est très loin. Il y a un bluff terrible et que certains chercheurs alimentent. Donc je voudrais dire une chose, c'est que un système vous répond en vous disant « c'est formidable, je vous ai compris ». Qu'a-t-il compris ? Qu'a-t-il réellement percuté ? Et pour les émotions, nous sommes au plus haut dans des détections de 80%, c'est-à-dire que ça fait pas 20% d'erreurs. Et là, je suis dans la fourchette très haute sur des sujets où on va détecter 4 émotions, colère, tristesse, peur, joie. Est-ce que c'est cela, les émotions dans la vie de tous les jours ? Bien non, ce sont des émotions mélangées, bien plus complexes. Tant qu'on n'aura pas une idée du contexte dans lequel ça se passe, ces machines sont terriblement minables. Et pour autant, on va vous laisser croire que ça marche. Et pourquoi ? Parce que vous allez parler avec ces machines, on va collecter vos données, derrière elles seront annotées, et c'est des espèces de cercles infernales dans lequel on est lié. Allo, par exemple, ce bracelet d'Amazon, qui vous détecte vos émotions, vous envoie le résultat sur votre portable, c'est un collecteur de données. Et tous ces agents conversationnels avec Amazon, Google, qui sont pas chers, c'est vous qui êtes le produit, vous fournissez des données. Et à travers cet ensemble de données, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, mais qui aura une acuité sur certains signes et qui pourra peut-être déterminer vos émotions. Dernier point, on utilise aussi cela maintenant pour le recrutement, pour aller chercher des inflexions de voix, les soft skills, là, les relations émotionnelles intéressent beaucoup les recruteurs. On va chercher dans leur voix des indices. Je connais certaines boîtes avec des chercheurs qui considèrent que c'est des sujets de recherche sur lesquels il faut aller. Attention, on est en train, là, de proposer des solutions non testées, non vérifiées, non transparentes. Et là, Et les jeunes ne peuvent pas refuser cela. Or, s'ils avaient un cheveu sur la langue ou une quelconque difficulté de prononciation ou une culture différente avec un accent différent, ils seront en dessous de la pile des gens qu'on va chercher à recruter.
Allez, n'hésitez pas à nous raconter votre curiosité, votre excitation, votre peur face à ces machines parlantes, ces robots émotionnels au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Jamais aucun robot ne pourra remplacer l'équipe de Grand Bien Vous Fasse. Julien Macarez et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé. À la technique ce matin, Élise Christophe et Clément Vuillet. La réalisation est signée Stéphanie Texier. La programmation musicale, Muriel Pérez. Et on écoute Stéphane Escher.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes champs, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'ami comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Observant, je crois, j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis. Découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
Stéphane Escher, pas d'amis comme toi.
Ok Google, est-ce que tu peux nous raconter une blague?
Une blague? C'est parti.
Grand bien vous fasse.
Quel est le crustacé le plus léger de la mer? La palourde.
Sur France Inter.
10h29 et on s'intéresse ce matin à ces machines parlantes, ces enceintes connectées, ces robots émotionnels, empathiques, qui vont prendre de plus en plus de place dans nos vies dans la décennie qui vient. Avec nous le psychiatre Serge Tisseron et la grande spécialiste en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, Laurence Devillers. Alors Stéphane Escher vient de chanter « Pas d'amis comme toi ». Est-ce que vous pensez qu'un jour des liens d'amitié pourront se nouer avec ces machines? Est-ce qu'on pourra les assimiler un jour à des camarades de jeu, à des amis imaginaires, Serge Tisseron?
Alors, vous savez, c'est toujours difficile de voir l'avenir, mais en tout cas, c'est l'ambition de ceux qui les fabriquent. Alors, comme Laurence l'a dit, c'est pas une ambition désintéressée. Hein. Plus nous confierons d'informations personnelles à ces machines, plus notre double virtuel qui existe dans les serveurs centraux des fabricants vont s'enrichir de données toujours plus complexes sur nous. Et du coup, ces machines vont pouvoir nous donner toujours plus l'impression qu'elles nous comprennent, qu'elles sont proches de nous, qu'elles nous connaissent nos désirs. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que tout va dépendre de la manière dont elles vont se présenter. On n'a pas le même attachement à une machine quand on est constamment renvoyé au fait qu'elle est une machine et quand, au contraire, contraire, on n'y est jamais renvoyé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Siri, vous pouvez l'insulter. Vous insultez Siri, vous dites « Siri, t'es bête », vous dira « bon ». Vous dites « Siri, t'es grosse », alors elle pourra vous répondre « c'est à cause du chocolat voilà. ».
Rappelez qui est Siri pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà.
Siri, alors, qui est Siri ?
Siri, c'est le répondeur qu'on trouve sur en Siri, sur le téléphone, sur le smartphone. Voilà. Et donc, cette machine, il y a parfois un débat pour se dire ben, « est-ce qu'il faut que la machine se laisse insulter ?» avec le risque, bon, comme souvent les hommes donnent une identité féminine à leur robot conversationnel, avec le risque que des hommes peut-être insultent après des femmes pareilles, ou bien, autre éventualité, est-ce qu'il faut que la machine dise « ah non, t'as pas le droit de me parler comme ça ». Mais il y a une troisième éventualité, qui pour moi est l'éventualité essentielle, c'est que la machine réponde « tu as le droit de me parler comme ça, je ne suis qu'une machine, mais ne parle jamais comme ça à un être humain, ça c'est autre chose. En tant que machine, je n'ai pas droit à ton respect, mais ne parle pas comme ça à un être humain ». Et voyez, actuellement, le débat, il est entre les deux premières éventualités. Et il faudrait que le législateur impose absolument la troisième éventualité. Qu'aucune machine ne fonctionne sans qu'elle nous rappelle qu'elle n'est qu'une machine et qu'elle prélève nos données personnelles et parfois même qu'elle reste en marche alors qu'on a oublié qu'elle fonctionne.
Laurence de Villers.
Oui, pour aller dans le même sens, moi j'avais entendu sur Siri qu'on pouvait lui dire « salope » par exemple et elle disait « je vais rougir ». Voyez,
oui.
Et ça a été enlevé. Parce que les constructeurs sont bien rendus compte que c'était pas souhaitable. Mais mes étudiants me disent, il y a des sites où on injurie les robots parce que justement ils sont bridés. Alors ils répondent avec des choses assez bêtes, triviales, et donc on s'amuse à les malmener. Donc cette question qui est énoncée, le fait que la machine doit reprendre son rôle de machine est essentiel. Et nous la traitons au CNPEN, le Comité National Pilote d'Éthique du Numérique, où je suis en charge avec un philosophe qui s'appelle Alexei Greenbaum, de ce sujet, l'éthique de l'IA. Et nous sommes en train de rédiger des préconisations et une grande attention est mise sur cet aspect, à la fois de promouvoir peut-être d'autres idées pour des lois qui permettraient de donner des vrais garde-fous, des lignes rouges, et en même temps des préconisations éthiques pour les concepteurs de ces machines. C'est très important, en fait, de construire cela. Nous avons été missionnés pour ça par le Premier ministre, et on doit rendre notre rapport dans un mois à peu près. Et je pense que ce sera important de le diffuser à tous. Nous avons fait à cela une consultation publique que vous pouvez trouver sur le site de cette entité. Et je crois que je la mettrai aussi sur France Inter. Oui. Comme ça, tout le monde pourra avoir accès à ces questions qui relatent quel est le statut, comment on voit cela, est-ce qu'on peut injurier, malmener et comment on va se faire manipuler par ces machines. Et pour terminer, mes sujets de recherche actuels avec les étudiants sont autour de cette manipulation du nudge, c'est-à-dire de l'incitation à faire quelque chose et qui est très liée en fait à cette détection des émotions. Si je détecte les émotions de quelqu'un, je peux le changer la stratégie de la machine. Et de là, j'ai toute l'attitude d'avoir cette intention de lui faire faire autre chose. On peut l'imaginer pour des objectifs mercantiles, un marché, ou pour la politique, ou bien d'autres choses.
Rappelez le nom de cet organisme dont vous parliez.
CNPEN.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre OS personnalisé.
Je suis là.
Voulez-vous que votre système ait une voix masculine ou féminine ?
Féminine, je crois.
Mon nom est Samantha. Ravie de vous connaître.
Calcul en cours.
Et c'est ça que j'aime bien chez toi, voilà. Si tu me prends comme je suis, tu me juges pas.
Continuez 15 km sur N7.
Mais comme tu veux, Emmanuel. Je peux t'appeler Emmanuel ?
C'est super bizarre, non ?
Bizarre ? Vous me trouvez bizarre ?
Plutôt, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine.
Carl, veux-tu ouvrir la porte extérieure A ? Carl, est-ce que tu me reçois ?
Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne ?
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Ça vous intéresse ?
Ne discute pas, Carl. C'est moi qui commande.
Oui, oui.
Ouvre la porte A.
Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Disons que je suis douée d'intuition. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique, c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc en résumé, j'évolue continuellement. Comme vous.
T'es la femme de ma vie.
Est-ce que ces émotions existent vraiment ?
Emmanuel, tu veux m'épouser ?
Ou est-ce qu'elles sont programmées ?
François, je vais devoir t'abandonner.
Et ça fait très mal.
Mais pourquoi ?
Parce que les batteries s'épuisent. Adieu, François.
N'en me laisse pas. Emmanuel !
Mais je dois te dire une dernière chose.
Je t'en supplie.
Dans 300 mètres, tournez à gauche.
Emmanuel.
Vous avez pris beaucoup de notes pendant cet excellent medley signé Claire Destacan, Laurence de Villers. Vous avez pris des notes
Oui, parce qu'en fait, je pensais qu'il était important de parler de l'autonomie. En fait, c'est le Graal en ce moment des chercheurs, c'est-à-dire mettre un système dans l'environnement qui est le nôtre et qu'il apprenne au fur et à mesure des interactions avec les humains ou les objets. Donc, c'est ce qu'on va apprendre, l'apprentissage du sens commun, si vous voulez. C'est comme ça que les chercheurs en parlent. Cette compréhension phénoménologique, en fait, de l'environnement, elle est très propre à nous, à notre corps. Or, la machine n'a pas de corps, donc n'a pas du tout la même façon de capturer dans le contexte les informations. Et en cela, c'est encore une imitation très lointaine. Donc pensez, quand vous entendez dire que les machines vont être de plus en plus autonomes, certes, c'est un désir de... Dans certains cas, ça sera utile, hein, il faut absolument pas le dénigrer, mais il est encore, là, une fois, besoin de vérifier ce que la machine va apprendre et donc d'avoir aussi des garde-fous éthiques.
Serge Tisseron, ce qui prédomine dans le medley de Claire Destacan, c'est la voix de ces machines. C'est une intelligence artificielle qui s'incarne dans la voix, dans la parole. Ces machines sont dotées d'une dimension spécifique de la communication entre les humains, la parole, et bien sûr, ça contribue à nous donner l'illusion que ces machines possèdent une véritable personnalité.
Oui, alors tout à fait, dans le montage qu'on a entendu, on a entendu l'extraordinaire variété des voix. Or, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il est en effet possible de fabriquer des voix presque en fonction des attentes de l'utilisateur. S'il dit, l'utilisateur peut souhaiter une voix un peu plus aiguë, un peu plus grave, mais aussi un peu plus empathique, un peu plus en colère parfois. Et aujourd'hui, la voix de synthèse peut être vraiment fabriquée de telle façon qu'elle impacte un auditeur précis, mais pas même pas un groupe d'auditeurs, mais un truc parfaitement ciblé sur l'auditeur. La machine va apprendre par essai-erreur. À certains moments, l'auditeur va tendre l'oreille, va poser des questions, et du coup, la machine va s'auto-programmer pour être capable de répondre plus encore par ses intonations à l'être humain. Alors, par rapport aux émotions de la machine, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut toujours rappeler hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est que Carl se dérègle au moment où il a une émotion. Hein. C'est au moment où il dit « j'ai peur » que tout bascule. Alors, avant de vouloir donner des émotions aux machines, il faut regarder à deux fois. Puis je voudrais dire aussi, parce que Laurence a bien parlé de la capture des données, il faut bien comprendre que la capture des données, c'est un problème pour les utilisateurs, mais ça peut aussi devenir un problème pour ceux qui les accumulent. Parce que si un enfant confie qu'il a subi des sévices sexuels à l'enceinte connectée, dans le secret de sa chambre, qu'est-ce que le serveur central va en faire ? Qu'est-ce que Facebook, qu'est-ce que Google vont en faire ? Donc si vous voulez, il y a là tout un problème de législation, de régulation, qui concerne pas seulement la liberté personnelle des individus, la propriété de leurs données personnelles, leur libre consentement, mais qui concerne aussi les obligations qui pourront être imposées aux fabricants de ces machines quant à la gestion des données personnelles qu'ils vont recueillir.
Serge Tisseron, je m'adresse là au psychiatre. On parle à ces machines comme à de vraies personnes et ça change tout.
Oui, alors complètement, parce que aussitôt qu'on entend une voix, la question qui nous vient, c'est « il y a quelqu'un ». Qui est là, voilà. Si vous voulez, la voix, c'est quand même le truc. On rencontre un animal, on lui parle. Si il fait miaou ou waoua, on a compris que c'est un animal. S'il nous parle, on est quand même intrigué, quoi. Voilà. Et donc, du coup, la voix, c'est ce qui fonde le statut de l'être humain. Et c'est pour ça que, autour de la voix, il y a une très grande fragilité de l'utilisateur. Alors, faut comprendre aussi que tout dépend ce qui est dit. Par exemple, une étude a montré que lorsqu'on utilise des machines pour rappeler à des malades de prendre leurs médicaments, ça les leur donne pas tellement envie de prendre un médicament, surtout ça les déprime parce que les malades attendent autre chose que simplement on leur dise c'est l'heure de prendre tes médicaments. Ils attendent, on leur dise comment vas-tu, regarde il fait beau dehors, est-ce que tu te sens bien, voilà. Donc du coup on voit aussi les limites de ces machines, si elles sont trop fonctionnelles, mais tous les travaux justement sont destinés aujourd'hui à nous les rendre beaucoup plus empathiques, alors elles ne le seront pas évidemment, c'est l'être humain qui est empathique, c'est pas la machine, mais capables de simuler une compréhension de l'être humain, une attention à l'être humain, et ça tellement de gens en ont besoin encore une fois, que inévitablement, il y a un marché énorme. C'est pour ça qu'il faut mettre en garde contre le risque de manipulation qu'il y a là derrière.
Vous parlez d'empathie, Laurence de Villers. Comment ces machines miment-elles des émotions ? Comment imitent-elles des sentiments humains ? Expliquez-nous de façon pédagogique comment ça se passe.
En fait, on collecte des données et des émotions qu'on annote. Donc, c'est des humains qui annotent des données, qui sont des psychologues, des linguistes. Et à partir de là, on va étudier les différents signaux qui sont soit dans les mots que l'on dit. On peut dire « je suis triste ». Voilà. Donc là, c'est connoté directement linguistiquement. Ou alors, c'est la paralinguistique, c'est-à-dire la façon dont on parle. Et donc, je vais dire « je suis triste », une voix très laxe, déprimée. Et là, on va aller chercher ces facteurs-là aussi. Ou ça peut être aussi, si c'est une caméra en face de vous, ça peut être aussi les indices faciaux, les gestes, voir la posture. On sait très bien quand on regarde en l'air, par exemple, on est en train de réfléchir. Donc, il y a des émotions et des intentions qu'on va pouvoir détecter. Les états mentaux, on parle de cela, avec des machines de façon assez précise. Mais l'interprétation qu'on en fait, c'est là où il y a un énorme biais. Parce que pour l'instant, même si on est très fort, c'est un peu comme le jeu d'échecs ou le jeu de go, on sait faire ça dans un cadre très particulier. Donc là, peut-être qu'on arrivera à détecter des émotions très particulières avec une bonne performance, et encore on n'en est pas là. Mais en tout cas, on ne sait pas l'interpréter dans le contexte. Et derrière tout ça, ce que je disais tout à l'heure avec la manipulation et le nudge, qui vient de Richard Toller, des travaux de Richard Toller, qui est un économiste comportementaliste, prix Nobel en 2017, c'est l'idée de travailler sur les biais cognitifs, sur vos biais. On sait très bien que si la machine vous dit « faites comme moi » ou « machin a fait comme ça », ça va vous influencer. Et donc, on a toute une ribambelle de biais qui sont connus et que les chercheurs ou les entrepreneurs cherchent à mettre dans ces machines avec des théories derrière pour mieux nous manipuler. Donc, il faut faire attention à cela. En attendant, pour le bien de personnes âgées ou dépendantes, on peut imaginer des situations dans lesquelles c'est du bon nudge, c'est-à-dire qu'on va aider la personne à prendre ses médicaments ou à avoir une vie plus saine. Mais c'est encore une fois dans un cadre où il faut absolument gérer, réguler ce qui se passe, évaluer en continu, auditer l'interaction avec la personne pour éviter trop de dépendance ou un isolement avec les machines. Notre imaginaire est fondamental. On ne doit pas le vivre exclusivement avec des machines qui nous manipulent.
Florent nous écrit « Quand on voit la déprime, voire la dépression qui atteint beaucoup de gens pendant cette pandémie, est-ce que ces intelligences artificielles pourraient un peu aider à soutenir les gens isolés ou seuls ?»
Alors oui, c'est vraiment un enjeu important. J'ai commencé à alerter là-dessus dès 2015. C'est que aujourd'hui, beaucoup de concepteurs de machines les conçoivent comme des partenaires alternatifs. C'est-à-dire que, voilà, vous n'avez pas à côté de vous la personne avec laquelle vous aimeriez interagir. Eh ben, peut-être, vous allez le faire à distance avec un smartphone ou si elle n'est pas joignable, eh ben, vous allez le faire avec une machine parlante. Il faut absolument concevoir des machines qui nous renvoient à notre sociabilité. C'est-à-dire qui nous invitent, par exemple, à contacter le club de loisirs qui est à côté de chez nous et dont nous ignorions encore l'existence. Après tout, la machine est connectée à Internet, donc elle sait des tas de choses qu'on n'est pas forcément allé chercher, et encore moins qu'une personne est allée chercher. Donc concevoir ces machines comme des intermédiaires entre des utilisateurs possibles. Et ça, on y est très très attaché, notamment en psychiatrie, en psychothérapie. On essaye d'introduire des machines uniquement comme des supports technologiques pour permettre à des humains de faire mieux et plus efficacement ce qu'il faisait jusque-là avec des malades sans les machines. Mais aujourd'hui, il y a un énorme enjeu dans le domaine du soin qui est d'éviter absolument la machine qui remplacerait un humain et de considérer toujours la machine comme un outil de médiation pour permettre à des humains de mieux s'humaniser ensemble.
Bonjour Carole, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Quelle est votre question ou votre témoignage, Carole ?
Alors déjà, je vous remercie pour le thème de l'émission, parce Merci. Que je trouve qu'il est vraiment très important.
Merci.
Ce qui amène à ma question, c'est que, est-ce que justement, ces machines qui sont censées pallier la solitude et l'isolement des gens, en fait, est-ce que c'est pas leur utilisation qui génère justement cette solitude et cet isolement ? Parce que maintenant, c'est extrêmement difficile d'avoir un contact avec un être humain, notamment pour des services administratifs ou voilà. Donc voilà.
Très bonne question de Carole Serge-Tisserou.
Oui, très bonne question. C'est que d'ores et déjà, quand on a affaire à un répondeur, quand on fait un numéro, il est très compliqué. Alors aujourd'hui, on repère à peu près si on a affaire à un humain ou pas un humain, mais très bientôt, on ne pourra plus. Et je vous disais tout à l'heure, il faut toujours que la machine rappelle son identité de machine. Il faudrait absolument imposer à toutes les structures qui proposent des répondeurs téléphoniques que le répondeur téléphonique, au fur et à mesure qu'il se perfectionne, d'ores et déjà, il commence à annoncer sa nature de machine. Et puis si vous voulez interagir avec un humain, ben, l'attente sera un peu plus longue, mais vous appuyez sur la touche 1 et puis on vous mettra en attente. Voilà. Mais ça, c'est très très important de ne pas créer des boucles d'interaction dans lesquelles des gens de plus en plus seuls utilisent de plus en plus des machines, se satisfont de réponses gratifiantes, consensuelles, et vous, alignées sur leurs
comparez,
attentes. Toujours en boucle, tout. Ouais.
Vous comparez d'ailleurs ces machines parlantes à une célèbre pâte à tartiner. Ces machines, oui. Ces machines flattent notre ego comme la pâte à tartiner flatte notre palais. Ah ben,
je vous remercie de le dire parce que je dis souvent les machines parlantes c'est des ersatz d'humains et on me répond ben oui mais les humains ils préfèrent toujours le réel à l'ersatz. Ben non parce que le Nutella c'est un ersatz de chocolat et on sait bien qu'il y a des gens qui préfèrent le Nutella au chocolat. Pourquoi ? Parce que le Nutella il est conçu sur mesure pour flatter notre palais et aujourd'hui beaucoup de robots conversationnels sont conçus sur mesure pour flatter quoi ? Ben pas notre palais mais notre ego. Flatter notre ego, flatter notre narcissisme, nous donner l'impression que notre vie, que notre personne vaut vraiment la peine. Et comme beaucoup de gens ne trouvent pas dans l'environnement humain cette relation valorisante, la tentation va être grande pour beaucoup d'aller le chercher auprès de machines, avec le risque de rentrer dans une boucle anti-vertueuse. Ben, ma machine me dit que je suis sympa, voilà, que j'ai de l'humour, et toi, tu ne me le dis pas. Alors je préfère ma machine qui me le dit à toi qui ne me le dis pas.
Merci beaucoup, Carole, de nous avoir appelé. Laurence de Villers.
Oui, d'autant plus que, en fait, il y a cette partie de séduction qui est amplifiée, en fait, par beaucoup de technologies à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, il faut rendre transparent totalement tout ce qui est technologique. C'est invisible. Et plus c'est invisible, plus on va être séduit par la facilité d'utilisation et on est pris par l'attention de ces machines. Donc il est évidemment très important d'apprendre cela à l'école. Je pense qu'on a besoin d'éduquer et d'éduquer tout au long de sa vie. Hein. Mais à l'école, ça doit commencer en expérimentant ces machines pour savoir comment elles sont conçues. Il n'est pas la peine tous de se mettre à coder. Il faut apprendre, expérimenter et savoir garder son libre arbitre devant la machine. Et je suis tout à fait d'accord. La première chose à faire, il faut absolument qu'on ait une régulation sur le fait de savoir que c'est une machine et pousser les chercheurs, les technologistes, les ingénieurs et les décideurs en marketing également à avoir cette obligation de dire que c'était machine lorsqu'on parle à des machines.
Je vous cite Laurence de Villers, prise au piège des robots émotionnels et de tous ces objets empathiques connectés pour notre santé, nous serons incités à aimer, consommer, vivre tout en étant surveillés. Que nous restera-t-il pour rester libres de nos faits et gestes ? Et vous ajoutez, simuler des comportements non prédictibles pour tromper les robots.
C'est des suggestions de plusieurs personnes que j'ai entendues. Soyons anarchiques devant ces machines. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution quand même.
Ça porte d'ailleurs cette stratégie est connue depuis longtemps par rapport aux réseaux sociaux, à l'Internet. Ça s'appelle se cacher en pleine lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas se cacher, eh bien, on construit des simulacres de soi et on construit des identités dans lesquelles on va tantôt réagir d'une manière et tantôt d'une autre, de telle manière que l'algorithme est perdu. Il ne sait plus très bien à qui il a affaire. Voilà. Mais bon, c'est terrible quand même de penser à ça. Moi, ce que je crains plutôt, vous voyez, c'est que ces machines, dont on comprendra quand même qu'elles sont des machines à simuler, voilà, je veux dire, on ne les confondra pas avec des humains, on saura bien que ce sont des machines, mais elles nous fascineront pour leur capacité de simulation. Ce que je crains, c'est qu'elles invite certains humains à finalement se caler sur elle, c'est-à-dire la machine, elle est toujours fiable, elle est toujours régulière, elle remplit toujours ses promesses, elle est toujours au rendez-vous, elle se plaint jamais, et ben voilà, toi t'es un humain, et ben écoute, prends un modèle sur la machine. Et puis la machine, et ben elle simule ce que j'ai envie qu'elle simule, c'est-à-dire si j'ai envie qu'elle fasse semblant d'être gentille parce que j'ai envie que, semblant d'être contente parce que j'ai envie de gens contents autour de moi, et ben voilà, que les qualités prêtées aux machines à juste titre, deviennent des qualités qu'on demande à des êtres humains.
Un mot de conclusion, Laurence de Villers.
Donc les machines ne détiennent pas la vérité, en tout cas il y a plusieurs vérités, il faut vérifier. Et ces machines qui vont simuler nos comportements, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des technologies où on cherche par exemple à faire des coachs qui vont effectivement nous accompagner à être comme des machines. Et attention donc à la détection et en même temps au coaching, deux technologies qu'on peut vous vendre à la place d'une.
Et n'oublions pas que ces machines sont programmées par des humains. Il ne faut jamais l'oublier.
Et que l'homme qui croit parler à la machine parle en réalité toujours à l'homme qui est derrière la machine.
Merci beaucoup Laurence de Villers. Je recommande vraiment les robots émotionnels. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et je recommande également l'emprise insidieuse des machines parlantes. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Restez avec nous dans un instant. La saine colère de Julia Foyce dans sa chronique Pas son genre et on écoute Billie Eilish. Billie Eilish interprété Therefore I Am.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui, 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 oui. Bah, moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Bonjour Julia Foyce.
Mais bonjour Ali. Bonjour
vous n'êtes pas
monde.
Une robote, vous êtes une vraie chroniqueuse en chair et en os. Et vous revenez ce matin sur le mot, j'ai pas dit ça, vous revenez ce matin sur le mot consentement.
Mot qui squatte nos lèvres et nos pensées depuis des semaines, depuis des mois, disons chaque fois qu'il est question de violence sexuelle. Ça peut paraître une bonne chose, hein, l'idée qu'une femme ait enfin son mot à dire sur l'opportunité d'un rapport sexuel. On commence à comprendre, grâce à MeToo notamment, que si elle ne veut pas, mais que le rapport a quand même lieu, alors il y a crime, alors il y a viol, et c'est bien, on avance. Sauf qu'on se trompe, le consentement n'existe pas dans le code pénal. Pour qualifier un viol, la loi se concentre sur les actes de l'agresseur. A-t-il agi par violence, contrainte, menace, surprise ? Poser la question du consentement, c'est braquer le regard sur la victime, à elle de prouver qu'elle ne voulait pas. Difficile, voire impossible dans la culture qui est la nôtre, culture fondée, entre autres, sur la mise à disposition du corps des femmes, la sexualité pulsionnelle des hommes et l'histoire de toutes ces martyrs devenues saintes parce qu'elles ont préféré mourir que d'abdiquer de leur vertu. Aujourd'hui encore, une bonne victime est une victime morte. Parce qu'alors seulement, on voudra bien croire qu'elle ne voulait pas. Dans tous les autres cas, on se dira que si elle a dit non, elle ne l'a pas dit assez fort, assez clairement, assez souvent. Il avait une arme, peut-être, mais en a-t-il fait usage? Il avait seulement ses poings? Ok, mais où sont les bleus, les bosses, les traces? De toute façon, Ali, une victime n'aura jamais assez dit non. La preuve, encore avec cette affaire qui a conduit Julie et sa famille jusqu'à la Cour de cassation.
Une affaire qui commence en 2008.
On est en région parisienne, mère instite, père avocat, famille tranquille. Le dimanche, on regarde Disney à la télé, jamais on parle de sexualité. Julie est toute jeune, elle a 13 ans, c'est une sensible, une grande sensible, comme le sont ses enfants un peu trop doués en classe. Jamais très populaire, pas assez cool non plus, alors très solitaire. Julie aime apprendre, mais l'école, ça l'angoisse. En quatrième, crise de spasmophilie, l'école appelle les pompiers. L'un d'eux monte à l'arrière avec elle, il prend son numéro. Et puis il file le numéro à ses copains en uniforme. Il trouve ça très rigolo de bombarder la petite de textos avec des vidéos porno. C'est un message, puis deux, puis cent, tous les jours, pendant près d'un an. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Parce qu'ils menacent, ils insultent, font les gros bras, la font chanter. Tais-toi, tout est ta faute. Des pompiers, mais ça va pas. Jamais personne ne te croira. Julie a peur, Julie se tait, Julie se ferme, Julie se fait mal. Bientôt les scarifications, bientôt les crises de tétanie, phobie sociale, disent les psys. Alors Julie arrête l'école, et comme ça le piège se referme et la l'emprise peut se tisser. Les pompiers, ceux qui la harcèlent, sont ceux aussi qui la secourent chaque fois qu'elle sombre ou qu'elle dévisse. Une main tendue, un uniforme, ils ont le prestige de la mission, ils ont l'aura et ils l'auront. Julie veut faire un stage chez eux, venir en aide, devenir comme eux. Tiens, je vais en parler à ta mère, suggère l'un d'eux, le tout premier. La mère dit, venez prendre un café. Elle a confiance, c'est des pompiers. Et puis ça fait tellement longtemps que Julie n'a pas eu de projet. Le pompier vient à la maison, la mère va promener les chiens. L'occasion était bien trop belle pour le pompier qui viole Julie. C'est le premier d'une longue série. Julie s'enfonce, Julie perd pied. Un jour, elle tente de se pendre. On la bourre de médicaments. Julie perd pied, elle perd la tête. Les pompiers le savent évidemment, car qui l'emmène à l'hôpital ? La mère s'affole, ne comprend rien et sa fille ne dit toujours rien. Les semaines passent et puis les mois, ça peut durer longtemps comme ça. Et puis un jour, nouvelle équipe, nouveau médecin, nouvelle pratique. 3 semaines sans un médicament, c'est une fenêtre thérapeutique. Julie retrouve ses esprits, alors elle parle et elle dit tout, les noms, les lieux, les dates, l'endroit, les 20 pompiers et tous les viols, plusieurs dizaines en une année, en réunion, mais parfois pas. La mère porte plainte, viol aggravé, partie civile et c'est parti. Parti pour 9 ans d'instruction. Enfin, le dossier est bouclé. 3 pompiers mis en examen. Oui, 3 sur 20, mais pas pour viol, non, quand même pas. Atteinte sexuelle, on préfère ça. C'est un délit et plus un crime. Il y a bien eu des rapports sexuels avec mineurs de moins de 15 ans. Oui, mais il y a eu ce consentement. Julie voulait, Julie cherchait. Les pompiers le disent, la justice suit et c'est écrit. Jugement en appel, je cite, « Le succès habituel des pompiers auprès de la gente féminine ne les a pas incités à la réflexion. » La semaine prochaine, la Cour de cassation va de nouveau devoir trancher. Julie voulait ou voulait pas? Attendez, allez, je vous la refais. 20 pompiers âgés de 21 à 25 ans face, ou plutôt sur, une gamine de 13, 14 et puis 15 ans, gamine shootée aux médicaments. Y a-t-il eu oui ou non rapport sexuel? C'est ça la question et la réponse est oui. Même les pompiers l'ont admis.
No comment, Julia Foyce. Merci de nous avoir éclairé sur cette affaire. Merci. Que nous allons suivre. Merci, Julia Foyce. Le thème demain de votre émission, pas son genre, à
20h. Alors, ça va être très, très bien. Parce que... on reçoit Nesrine Slaoui, elle écrit Illégitime et elle raconte son itinéraire. C'est l'itinéraire rarissime d'une gamine qui est née dans une cité près d'Apt et puis elle bosse comme une folle. Elle est reçue à Sciences Po. Aujourd'hui, elle est journaliste, elle vit à Paris et elle raconte tout ce que cet itinéraire suppose comme mur à abattre.
Et vous pouvez évidemment réagir à la chronique Pas son genre de Julia Foyce, chronique très importante.
Je précise qu'il y a un hashtag sur les réseaux sociaux qui circule qui s'appelle Justice pour Julie. Vous avez toutes les infos qui sont là. Il y a une manifestation qui est prévue dimanche en soutien à Julie. Il y a des politiques qui s'impliquent et notamment Laurence Rossignol qui suit le dossier de très près. C'est un moment où un jugement peut faire date. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses très profondément dans notre société ou pas.
En tout cas, nos invités acquiescent. Merci beaucoup. Demain, dans Grand Main vous fasse loisir, il sera question de vacances en Charente, de crêpes d'ici et d'ailleurs, d'une philosophie de la crêpe, mais également de livres et de séries pour les soirées, les longues soirées de couvre-feu.